Sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could be gaming.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de RNG. Vous êtes sur le 93.9 FM, Radio Campus Paris. Salut Swill, salut Ulysse. Et donc pour cet épisode bilan de l'année 2024, on reçoit un invité spécial, Jules Seigneur.
Hello les gars.
Voilà, qu'on avait déjà eu en 2023 pour le bilan. Et du coup que je vais laisser un peu se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas.
Ouais, moi c'est Jules alias KL, j'écris pour Gamekult principalement. En ligne. Maintenant, cette année, la nouveauté, c'est que j'écris aussi pour le magazine papier JV Le Mag, donc qui est un mensuel. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Hein. On est dans l'industrie, on est dans le journalisme.
Nice. Voilà, voilà. Et du coup, là, pour cet épisode, donc si on reçoit Jules, c'est pour faire donc, un bilan de l'année 2024, comme on l'a dit. Et on va traiter ça en plusieurs parties. La première partie, la façon dont on va introduire ça, ça va être sur un des sujets qu'on a vite fait traité, enfin, qu'on a vite fait, qu'on a traité, mais sur un axe précis dans notre dernier épisode qui était sur le wokisme, ce rapport-là un peu politique dans le jeu vidéo, comment on peut le concevoir. Et du coup, pour étendre là-dessus, là, ce qu'on voulait traiter pour introduire cet épisode, c'était sur la polarisation des joueurs. Vraiment l'idée qu'il y a un... Est-ce que c'est un ressenti biaisé ou non ? Mais qu'on a l'impression que les joueurs sont de plus en plus divisés, qu'il y a une communauté qui est de plus en plus fracturée, tendue. Et du coup, c'est un peu pour ça que je voulais ouvrir là-dessus, c'était pour avoir donc ton ressenti à toi, Swift, mais d'abord aussi avoir celui de Jules, qui est, je vois, un journaliste professionnel, et voir comment toi, tu l'as ressenti au sein d'une rédaction comme Gamekult ou JV Le Mag, par exemple.
Au sein de JV Le Mag, on l'a pas vraiment ressenti, parce que non seulement on est un peu de niche, mais ensuite, comme c'est un magazine papier, tu vois, les gens, ils s'amusent pas à venir lire quand ils sont pas d'accord politiquement pour commencer. Okay. Ça simplifie assez le rapport qu'on a à la communauté. Gamekult, par contre, ouais, ça nous arrive plus souvent d'avoir des insultes genre oh, sale gaucho, sale wokiste, mais aussi des gens ah, vous êtes d'extrême droite parce qu'on a fait une vanne sur Jean-Marie Le Pen une fois, tu vois. donc, tu peux rien dire sans que tu sois forcément dans une case, mais très extrême, tu vois.
C'est rien, c'est l'autre,
on peut pas être des gauchistes Ogden, tu vois. On est forcément des gens du NPA, tu vois.
Instantanément, ouais.
C'est un peu ridicule. Et puis, il y a aussi une polarisation entre l'Ouest et l'Est qui est complètement artificielle, mais qui commence à être fabriquée par les influenceurs. Avec, enfin, on va en parler tout à l'heure, mais les Game Awards 2024, il y a eu plus de jeux, en fait, chinois, japonais nominés que de jeux occidentaux. Et t'as des mecs qui arrivent pour faire leur beurre et dire, mais est-ce que le Japon, finalement, c'est pas un meilleur pays pour jouer vidéo en ce moment? Avec ce sous-texte de, c'est aussi un peu un pays de droite et qui est conservateur et ils sont pas trop woke. Donc, est-ce que finalement, alors que Baldur's Gate 3, c'était l'an dernier, en fait. Enfin, genre, il y a genre Balatro cette année qui est un jeu canadien. Il y a genre des jeux dont on va parler tout à l'heure dans nos jeux de l'année, mais il y a plein d'autres trucs qui sont sortis en fait en Occident qui sont peut-être pas dans les blockbusters, parce que de toute façon c'était une année à vide pour les blockbusters occidentaux. Sony n'a pas sorti grand chose. Xbox, en fin d'année il y a eu Indiana Jones que j'ai adoré, mais qui arrive du coup trop tard pour les Game Awards. Donc c'est une fausse opposition entre Occident et Orient qui est faite de manière complètement artificielle à cause du calendrier, qui n'a absolument aucun sens quand tu regardes l'industrie, et qui est clairement juste pour faire des vues ou pour se conforter politiquement dans des positions sont pas en fait fondés, quoi.
Ouais. Et toi, du coup, est-ce que tu partages un peu ce ressenti sur celui des joueurs sur la fracture Occident, tout ce qui va être un petit peu Asie, en mode, le jeu vidéo va être sauvé par les studios de sud-coréens ou chinois?
Depuis quelques années, il y a quand même une montée en puissance de l'Asie un peu dans la proposition, surtout que c'est pas que le Japon. Maintenant, on a la Chine, on l'a vu cette année avec Black Myth Wukong, on a eu Stellar Blade. Cette année, c'est un jeu coréen, ça.
Ouais.
C'est un jeu sud-coréen. L'année dernière, on a eu Lies of P. Pareil, jeu sud-coréen. Donc, on a quand même une sorte de montée en puissance de l'Asie, mais derrière, je trouve que ça alimente des débats qui sont très malhonnêtes, en fait. Qui, clairement, au lieu de juste de redonner à l'Asie ce qui leur revient de droit, c'est-à-dire une forme d'appréciation pour la qualité des jeux vidéo qu'ils mettent sur la table, derrière, on vient cracher un peu sur Twitter sur des débats qui sont clairement nauséabondes et qui, selon moi, n'ont pas leur place. Donc voilà, non, j'ai pas plus...
Non, bien sûr. De toute façon, c'est un ressenti que je partage un peu avec toi, et c'est intéressant, du coup, la façon dont toi, tu le mets en mots, Jules. Et c'est vrai qu'on peut voir qu'il y avait cette tendance à vouloir opposer, on va dire, des cultures et des façons de concevoir le jeu vidéo en disant, il y en a une qui n'est pas politique, entre guillemets, et qui, du coup, pense le jeu vidéo pour son aspect le plus ludique. Alors que foncièrement, il y a de la représentation qu'on pourrait en plus questionner et interroger dans des jeux comme Stellar Blade, ou des Black Myth Wukong avec des conditions de développement en plus qui sont pareilles assez discutables et discutables.
Discutées.
Ouais, évidemment. Mais pareil, ça a été un débat qu'on a vu où c'est, ah, mais est-ce que vraiment il faut parler ça? Est-ce qu'il faut relever qu'en effet, ils voulaient pas de féminisme dans la communication vis-à-vis des streams ou par rapport au développement du studio? Et moi, je trouve que ouais, ça devient, entre guillemets, un point assez critique quand on en revient, enfin, quand la communauté de joueurs revient à dire, est-ce que vraiment vous devriez parler de ça? Bah, vous parlez un peu de ce que vous voulez. Enfin, je pense que, en tout cas, c'est mon point de vue et ça devrait pas être une question à poser. Mais voilà. Et du coup, pour vite switcher là-dessus, une autre question que j'avais, moi, c'était vis-à-vis de la taxe Xbox. Parce que c'est un truc qu'on a beaucoup revu sur les réseaux sociaux, l'idée que bah, forcément, tous les journaleux seraient à la solde de Sony. Et si un jeu Xbox sort, bon, en tout cas, édité par Xbox, c'est forcément un jeu qui va être sous-noté. Du coup, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de 11 sur 10 à Indiana Jones sur GameCult et ça a été un 8?
Bah parce qu'il mérite 8 sur 10, déjà.
Déjà, GameCult n'avait que des 8 sur 10, de toute façon, je
n'en... Non. Avant, on mettait que des 7 sur 10 dans les anciennes rédactions. Maintenant, c'est les 8 sur 10.
C'est l'inflation.
C'est l'inflation. Non, et la vérité, c'est que moi, je considère pas du tout qu'on a de taxes Xbox. Déjà, parce qu'on n'est pas payé par PlayStation. Ça, c'est une évidence. Le second point, c'est qu'on a quand même mis 8 à Starfield. On a quand même mis 9 à Diablo 4, 9 à Forza Motorsport. Je veux dire, au bout d'un moment, on n'est quand même pas dans la haine de Xbox. Enfin, je mets des gens au défi de me le prouver à ce stade. Peut-être qu'il faut juste se poser la question pourquoi Xbox a mauvaise presse de manière très littérale. Peut-être qu'ils devraient arrêter de fermer des studios dont ils disent l'année d'avant qu'ils ont atteint tous les objectifs commerciaux internes. Peut-être que s'ils arrêtaient de faire ça, effectivement, c'est à moi en clair de dire que bah, c'est un peu des empaffés. Là où Sony n'est pas tout blanc, ils ont aussi fermé des studios cette année, ensuite à l'échec de Concord. D'ailleurs, Shine Games a fermé, mais c'est un licenciement qui est un peu plus compréhensible de la mesure où c'est effectivement le premier projet d'un jeu, le premier projet d'un studio. Ça bide de manière vraiment, c'est une catastrophe industrielle. On parle de 200 millions de pertes. Bon, ils ferment l'équipe. C'est navrant, mais au moins, il y a une raison derrière.
Ouais.
On peut voir une logique. Alors que Xbox, ils viennent te dire une semaine qu'ils devaient fermer des petits studios parce que, en fait, c'était pas assez rentable, pour te dire littéralement dans une interview la semaine d'après qu'ils ont besoin de plus de petits studios pour faire des projets pas forcément rentables mais originaux.
Ouais,
donc, on est vraiment sur une espèce de sommet en fait, de la langue de bois politicienne, commerciale, et du mensonge en fait, éhonté en permanence chez Xbox, qui fait que c'est pour ça que ça a plus mauvaise presse. Après, les jeux ne sont pas forcément plus ou mauvais ou moins bons. Un de mes jeux préférés de cette décennie, c'est Pentiment, qui est un jeu Xbox. Hein, c'est estampillé, il n'y a pas moyen de pas se tromper. Ils font des très bons jeux, c'est juste que peut-être ils arrêtaient de mentir en permanence à leurs consommateurs et de licencier des gens sans prétexte perceptible, bah peut-être qu'effectivement, on les apprécierait plus.
Ah, mais si, je pense que c'est une réponse vachement adéquate. Puis du coup, ça me permet en plus de faire la transition sur après, donc là, la deuxième partie, non, c'était la troisième, mais ça va être la deuxième partie de l'épisode, sur un peu les stratégies de chaque constructeur. Donc là, on va parler de Xbox. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, d'aspect un peu mensonge ou en tout cas communication qui est pas très clair, je pense que ce que j'aurais le plus à reprocher sur cette année, du coup là, 2024, c'est que Xbox, ils ont toujours pas fait d'effort de communication vis-à-vis de la sortie physique de leur titre. C'est que c'est le seul constructeur, que ça soit du coup Sony ou Nintendo qui est en face, qui n'a pas eu une seule exclusivité Series X complète sur disque. Et je trouve que c'est assez scandaleux, c'est même assez étrange, j'ai un peu plus de bruit. C'est-à-dire que Starfield, il n'y a aucun moyen de l'avoir sur Xbox dans une version complète. Indiana Jones, pareil.
Hellblade.
Hellblade 2, pareil. Hellblade 2, je ne sais même pas si il a eu une sortie disque. Je crois qu'il est qu'en débat.
Ah oui, ok.
Voilà. Et du coup, je trouve ça assez affolant, sachant qu'en surtout, on a Phil Spencer qui vient dire que, ouais, en effet, la rétrocompatibilité, elle est au centre. Que il faut préserver le jeu vidéo, que la préservation là-dessus elle est hyper importante et c'est pour ça qu'on peut jouer au Xbox OG 360 et tout. Donc pour une quelqu'un qui tient ce discours-là, je trouve ça quand même ouais pareil assez culotté d'après avoir aucun titre, mais alors aucun Forza Motorsport, tous, il faut une connexion pour au moins l'installer et après si c'est pas une connexion obligatoire pour y jouer, genre Forza Motorsport c'est ça, il faut une connexion obligatoire, c'est si tu l'as pas tu peux pas y jouer. Donc moi ça fait partie des greffes que j'ai cette année et je pense que le clou dans le cercueil c'est le This is on Xbox qui vient un peu souligner la stratégie qui est que maintenant l'Xbox est plus enfin la console telle quelle, le hardware n'est plus du tout au centre de la stratégie. Enfin, tu vas en dire là-dessus, Squid.
Non, mais on le voit. Ben, ça fait quand même quelques années. J'ai l'impression que Microsoft, en termes de communication, le message qu'il renvoie, c'est un signal qui est extrêmement flou et on a l'impression que tous les 6 mois, il y a un changement de politique, il y a un changement. On ne sait pas qui contrôle. Il n'y a pas de ligne directrice en fait. C'est-à-dire que on peut avoir des constructeurs qui ont des moments des moments moins bons, que ce soit des jeux moins bons qui sortent, il y a des mauvais moments partout, mais là, juste Xbox, c'est pas qu'ils sortent des mauvais jeux, parce que voilà, Indiana Jones, c'est une réussite, Hellblade 2 a quand même eu un très bon succès critique.
Stalker 2 a des bons retours aussi.
A quand même d'assez bons retours, Mais derrière, en fait, on est dans un flou qui, en fait, ne, je pense, ne rassure pas les consommateurs et les joueurs qui sont supporters, on va dire, de l'environnement Xbox, soit des gens contre Game Pass ou ce genre de choses. Ils peuvent se sentir assez délaissés parce que derrière, on peut prendre en miroir PlayStation. Il y a quand même, ça a été une année qui a été quand même assez compliquée, quand même. Pour PlayStation, en termes de communication, il y a eu la PS5 Pro, Concord, ce genre de choses. Mais derrière, il y a quand même eu des bons jeux. On l'a vu avec Astro Bot, Stellar Blade, FF7 Thriller. Mais derrière, on sait que Sony, il y a une ligne directrice. On sait qu'en termes de communication, Sony, on se fait pas vraiment de soucis vis-à-vis d'eux, en fait. Alors que Microsoft, c'est un côté de, on sait vraiment pas comment, à quoi va ressembler Xbox d'ici un an, en fait. Et ça, pour un constructeur qui est aussi gros, qui est là depuis vraiment longtemps maintenant, je trouve que c'est... Et le pire, c'est que c'est de pire en pire, en plus. C'est que vraiment, on pensait que la Xbox One, ça allait être la pire période. Mais là, je pense qu'on va arriver dans des discussions de est-ce que la génération Series S de Xbox n'est concurrence un peu la Xbox One. Et moi, je trouve que c'est assez triste d'en arriver à cet instant-là, en tout cas. Donc, surtout avec une console qui a des qualités, qui s'était vendue au même prix que la PS5, ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient tous les outils en main pour réussir. Mais derrière, c'est un énorme souci de communication et de contradictions politiques. Voilà.
Non, mais je suis d'accord. De toute façon, après, est-ce que c'est une génération qui, en fait, est aussi compliquée que la Xbox One? C'est sûr qu'en tout cas, elle découle de ce qu'il y a eu précédemment, de même l'image de marque, hein, qui a été abîmée, même s'il y a eu une espèce de hausse avec la One X et tout. Là, je pense que Xbox n'est plus vraiment sur quel pied danser. En tout cas, moi, de mon point de vue, c'est ça. La stratégie marketing elle est, entre guillemets, centrée autour du Game Pass, mais ils ne savent pas non plus comment ne pas se concurrencer eux-mêmes en disant, est-ce qu'on fait une sortie Steam? Est-ce que, du coup, en même temps, on fait une sortie physique? Mais les gens, forcément, on achète moins les jeux, vu qu'il y a le Game Pass qui est vachement intéressant. Et ils ont du mal à, je pense, à gérer ça, et même l'aspect console, cloud et tout. On verra comment ça va évoluer. À côté de ça, comme tu l'as dit, c'est vrai que Sony, même si c'est une année très compliquée, je trouve que la PS5 Pro, c'est catastrophique. Moi, je supporte pas cette politique tarifaire. Le fait d'avoir le lecteur de disque vendu en plus, enfin, c'est des trucs qui, moi, me hérissent beaucoup le poil. Mais ça reste les 30 ans, et on le voit un peu partout. Moi, je sais pas si vous êtes passé un peu dans Paris, mais juste à la Fnac des Halles ou autour. Ils savent, entre guillemets, mettre en avant le fait que, ouais, ça fait 30 ans qu'ils sont avec les joueurs. Ils sont là, ils ont une histoire, ils ont un patrimoine, entre guillemets, culturel et vidéoludique est hyper fort. Surtout, ouais. Voilà. Et alors que Xbox, quand il y a eu leurs 25 ans, je crois que c'était il y a un an ou deux ans. Mm-hmm. Ouais, je crois que c'était il y a deux ans pour la sortie du coup de Halo Infinite qui se calait là-dessus. À part les consoles spéciales, ils n'avaient pas fait grand-chose. Et c'est ça qui est assez triste, c'est qu'ils ont
le report d'Halo Infinite.
Ouais. Ils ont les ressources pour, mais ils n'arrivent pas à marketer autant, je pense, leur bagage culturel parce qu'ils ont, quoi. Enfin, Halo, ça reste un jeu important. Les Gears, pareil. Mm-hmm. Mais ils sont un peu à côté de leur compte. Donc après, voilà, genre, il y a ces deux constructeurs-là, mais du coup, je sais que toi, Jules, t'aimes beaucoup Nintendo, donc si tu voulais faire aussi un petit brief là-dessus de ce que t'as pensé de cette année du côté de Nintendo qui a pas annoncé sa Switch 2 encore.
C'est une année tranquille, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire dans ce qui s'est passé. Il y a eu un nouveau Zelda, donc ça, évidemment, c'est positif. Il y a eu quelques ressorties comme d'habitude. Il y a eu des plus petits projets comme Peach en début d'année qui ont quand même alimenté la console. A continué de bien se vendre. On sait qu'aujourd'hui, c'est un peu du bruit de couloir, mais que Nintendo, ils attendent plus ou moins de sortir à Switch 2 parce que ils sont en position de force. Ils peuvent se permettre d'attendre à consolider en fait les produits à proposer. En tout cas, c'est la théorie principale qui court et qui semble s'étayer au fur et à mesure du temps. Ils prennent vraiment leur temps. On attend de voir en fait l'année prochaine. C'est clairement pas le constructeur de l'année, mais j'ai l'impression qu'ils s'en fichent en fait complètement. Le seul point qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a énormément de consoles, que ce soit Steam Deck, ROG Ally, etc., beaucoup plus de pseudo-PC portables, c'est un peu mal ça qu'ils les vendent, même si en fait c'est juste des consoles portables, hein. On peut les résumer comme ça, c'est juste que ça tourne sous Windows. Il y a beaucoup plus de consoles comme ça qui sont nomades et ça a l'air d'être le futur, puisque PlayStation avec la PS Portal est en train de transformer cette espèce de manette qui à la base servait uniquement avec son écran à lire des jeux à distance sur sa console, maintenant on peut faire du cloud gaming. Microsoft, ils ont avoué qu'ils faisaient une console portable, ils en parlent de plus en plus ouvertement, quoi. Donc la question, c'est comment est-ce que Nintendo va se débrouiller pour démarquer la Switch 2? À mon avis, il y a trois mêmes arguments qui sont évidents. C'est que deux, ils arrivent plutôt un. Ils arrivent l'an prochain avant la nouvelle génération de toutes ces consoles portables, Windows, ouais, et avant la Xbox. Ils ont un patrimoine culturel qui est absolument démoniaque et injouable actuellement dans le jeu vidéo.
Ouais, ouais.
Surtout qu'eux, ils n'ont jamais eu besoin de porter chez quelqu'un d'autre. Parce que PlayStation, ils commencent à prêter des licences. Ils ont prêté Horizon à Nintendo pour Lego Horizon sur Switch.
Oh, oui,
Xbox arrive de plus en plus sur PS5, quand ils s'en cachent pas. Et bon, c'est plutôt positif, après, je pense, dans l'ensemble. Même si effectivement, en termes d'image de marque, ça peut leur jouer des tours. Ça peut faire partie du problème. Nintendo, ils en ont pas besoin, ils s'en fichent. Hein. Et la troisième raison, c'est le prix potentiellement. Aujourd'hui, il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être à 400 euros, quoi que ce soit.
Okay.
Le problème, c'est qu'avec l'inflation, ça sera toujours beaucoup moins cher que les autres constructeurs.
Ouais, bah oui.
Et donc, ça reste un argument. Voilà.
Ah bah ouais.
Après, pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est de la rumeur. Ça peut être à 250 autant qu'à 600. Peut-être qu'ils vont complètement craquer leur slip. On ne peut pas le dire, mais a priori, ça sera quand même moins cher puisque c'est une nomade. Tu as quand même envie de la vendre un peu moins cher qu'une console de
ça. Ouais, bon, sûr de ça.
Ne serait-ce que pour les attentes du public.
Ouais.
Donc voilà.
Ah, j'ai envie de rajouter encore. Au-delà même de la Switch 2, les jeux qui vont sortir de la Switch 2 aussi, ça va être... c'est limite ça qui me hype le plus, parce que, souviens, la Switch s'était sortie quand même avec Breath of the Wild, qui est pas rien. Et là, je me dis, la Switch 2 avec un possible nouveau Mario Odyssey...
Metroid Prime 4,
On attend, et en tout cas, on sera là pour témoigner le...
Ouais, de ça, bien sûr. Ouais, ça va être correct.
Je la commanderai dès le premier jour, moi. Bah, je vais pas mentir, que ce soit bien ou nul, je step sur un champ de bataille.
Je sais que là, ce que j'ai, pareil comme vous, c'est une chose que j'attends énormément, surtout même au niveau des caractéristiques techniques. Je sais que, du coup, il y a eu beaucoup de fuites à ce niveau-là. Et, heureusement, où la console, avec des caractéristiques équivalentes, ils ont vu qu'on pouvait faire tourner Cyberpunk en 720p à 30 FPS. En mode pas trop mal et tout, je me dis, OK. Faudra voir évidemment en manette en main avec un GPU sous-cloqué du coup parce qu'il faut aussi que l'autonomie de la batterie dure et tout. Mais foncièrement, je suis très curieux de me dire que si c'est correct, au moins à atteindre les standards d'une PS4 de base, quoi, comme un peu ce que fait le Steam Deck. Je pense que vu que Nintendo a toujours, depuis la fin de la GameCube, oui, ils ont plus vraiment fait la course au graphisme, ils ont plus fait la course à la technique.
Ils font plus la course, mais ils ont une véritable maîtrise de leur système.
Ouais, c'est plus qu'un, en fait.
Oui, une puissance de PS4, c'est quand même énorme. Hein, parce que quand tu vois des jeux comme Last of Us 2 ou God of War Ragnarok, tout le temps, en Android 4, pour une nomade, t'as pas besoin de plus. Je veux dire, à partir de là, ça devient complètement ubuesque. À la limite, c'est l'écran qui va jouer, du coup. Est-ce que ce sera OLED ou pas? C'est ça la question. C'est la batterie.
Ouais. Je pense que ça serait très décevant qu'ils reviennent. Enfin, qu'ils fassent un peu, qu'ils reviennent à du LCD, du LED, parce que je trouve quand même que la Switch OLED, ça rapporte vraiment un vrai plus.
Pour l'instant, c'est quand même ce qui se dit, encore une fois, c'est du bruit de couloir un peu pourri.
C'est possible, mais peu qu'attendre, on verra bien.
Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Vous écoutez. RNG.
Ça m'amène au sujet suivant sur cette rétrospective de l'année, qui serait du coup les jeux à service. L'année dernière, on en parlait déjà, beaucoup en disant que toute l'industrie, c'était un peu le pivot qui allait se faire, où tout le monde essayait de l'avoir. Sony était parti sur ce truc-là, où on se disait, bon, on va voir où ça va aller, mais malheureusement, ils sont sur de la connexion, sur des jeux qui vont. Où les joueurs vont vous devoir investir beaucoup de sous. Maintenant que l'année est passée, et que Concorde est passée, et que Marvel Rivals, en plus, là aussi, est sorti vraiment dans une phase finale et a l'air de plutôt bien fonctionner.
10 millions de joueurs en plus jouent à 72 heures.
Ouais. J'aimerais bien savoir, du coup, un peu ta conclusion sur les jeux à service par rapport à cette année. C'est quoi l'état dans lequel... Enfin, quel est le postulat qu'on peut émettre là-dessus sur cette année-là, de ton côté jeu?
Il y a des jeux à service qui ont clairement tiré leur épingle du jeu. Et en plus, quasiment tous en fin d'année, ce qui est un petit peu surprenant quand même. Alors, World of Warcraft se porte très très bien cette année. Final Fantasy XIV, extension est un peu plus polémique entre guillemets que les précédentes, mais enfin, ça tourne quand même très très bien. Warframe, il se porte encore très bien également. Il y a un gros événement en fin d'année. Après, effectivement, là, on a eu Marvel Rivals, on a 10 millions de joueurs en 72 heures. Infinity Nikki, qui est un gacha sur mobile, 10 millions de joueurs, enfin, de téléchargement.
Que sur nos gachas, je crois.
Non, pour
pas du tout.
Autant pour mobile et tout.
Ouais. Ah, autant pour mobile.
Voilà, on a le Path of Exile 2, qui est le plus gros concurrent de Diablo, qui a enregistré 500 000 joueurs simultanés le week-end de lancement, alors que c'est que en accès anticipé. Okay. Et c'est un petit peu un jeu service, parce qu'il y a un système de saison, etc. Tu le reviens en permanence, donc même si on n'est pas exactement dans le même cadre que les autres, j'ai un peu envie de le glisser dedans.
Ouais.
Et aussi dans la catégorie des jeux, de toute façon, tu vas passer tellement de temps dessus que tu vas pas pouvoir énormément jouer à autre chose. Et c'est ça la question des jeux service, c'est l'économie de l'attention. Ça cannibalise le reste. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Et il y a des gens aujourd'hui qui me disent « Ah bah tu vois, Concorde, t'as dit que ça a raté, pas parce que c'était WoW, mais parce que le marché est saturé. Aujourd'hui, Marvel Rivals, ça fonctionne. Pourquoi ? Bah parce que c'est Marvel, parce que les personnages sont pas moches comme des clous, parce qu'il y a du budget et que tu le vois, le budget pour le coup, tu te demandes pas où il est passé.
Ouais. »
Et dans le cosmétique, 31 personnages en ce moment, si ce n'est plus, je sais plus, en trentaine, plein d'arènes. En fait, le problème, c'est que par exemple, quand Fortnite est arrivé, il a tout cassé dans Battle Royale. En soi, PUBG dominait déjà le marché du Battle Royale, que Fortnite a une proposition de valeur qui était tout à fait cohérente avec ce que les joueurs voulaient.
Ouais.
En plus, Concorde, c'est payant, Marvel Rivals, ça l'est pas déjà.
Ouais,
évidemment, tu peux juste l'installer et te faire un avis. Tu vois. Complètement différent de Concorde, même si c'est une bêta ouverte. C'est un peu la flemme d'aller à une bêta ouverte parce que, bon, pour diverses raisons.
Ouais.
C'est pas suffisant pour expliquer le wokisme à Concorde encore. Hein. C'est juste qu'effectivement, le jeu, bah, évidemment, il est moche. Désolé, mais les personnages sont moches.
Ouais.
Alors que les personnages de Marvel Rivals sont hyper bien réalisés. Et X-Defiant, pareil, qui a raté. Moi, j'adore le jeu. Je sais que Twill, c'est j'adore.
Peut-être dans les Doneros.
Il y a pas d'argent investi par les joueurs dans le jeu, mais la réponse, elle est simple. Les cosmétiques sont très moches.
Ah, ça, oui, c'est pas bon.
J'ai des centaines d'heures sur le jeu, mais les cosmétiques sont là, j'en ai pas acheté.
Je suis d'accord aussi. C'est sur quoi j'aurais rebondi par rapport à ça. Parce que là, enfin, c'est hyper intéressant de faire du coup un peu un état des lieux. C'est que nous, dans la conclusion, quand on parlait du wokisme dans le dernier épisode, c'est que foncièrement, voilà, c'est pas le problème du jeu vidéo. Ça, on le répétera encore et encore, c'est le coup, c'est pas le problème du wokisme dans le jeu vidéo. C'est pas ça qui fait que les jeux sont moins bons ou vous êtes plus nostalgique d'un temps révolu qui n'a jamais existé. Le problème, c'est que voilà, Concorde, si c'est un jeu à service, il a besoin du coup d'avoir des personnages attrayants, d'avoir une dynamique d'engagement en fait. C'est un peu ce qu'on essaie d'évoquer. Donc, le principe de ces jeux-là, de la dynamique de tension, comme tu dis, c'est que pour que tu y reviennes, c'est que t'aies envie d'avoir telle skin, envie d'avoir telle musique, telle danse, peu importe. Et Concorde, rien n'était attrayant. Les personnages étaient, en effet, les character design ne marchaient pas, ils étaient assez moches, ils étaient assez laids. Donc, si tu n'arrives pas à engager avec ça, même s'ils en faisaient un free-to-play, ça avait été évoqué l'idée de peut-être si le jeu devenait un free-to-play, il aurait pu avoir un second souffle. Je me rappelle qu'on en avait un peu parlé. C'était entre guillemets mort parce que même si c'est gratuit, donc les gens auraient téléchargé pour tester. Mais comme X-Defiant, ils seraient pas restés, enfin, ils se seraient rendu compte finalement qu'ils n'auraient pas investi d'argent dedans. Et donc, en fait, pour le coup, je peux comprendre que Sony ait juste à coup arrêté les frais. Et couper les vivres de ça, ce qui est malheureux, hein, du coup, et j'espère que tous les développeurs vont retrouver du taf, mais c'est fragile, mais c'est comme ça.
Juste pour Marvel Rivals, quand dans, on va dire, deux semaines, il y aura, on va dire, seulement 100 000 joueurs connectés simultanément et plus de 10 millions, faudra pas dire, voilà, je mors à l'endgame. Faudra se rappeler qu'un jeu déjà à 20 000 joueurs simultanés sur une plateforme, ça engrange déjà de l'argent et ça marche. Hein.
Ouais.
Aussi arrêter cette dynamique des articles, là, une chute de 80% de joueurs.
Oui, là, oui, c'est normal. C'est Marvel Rivals a tué Overwatch 2 et que du coup Blizzard va devoir mettre la clé sous la porte.
C'est vrai que, ouais, ok, Overwatch 2 fait son plus petit score de joueurs depuis longtemps. Et c'est normal parce que les joueurs sont juste allés voir le concurrent et ils reviendront. Il y a une partie qui ne reviendra pas.
Ouais.
Bon, on va voir, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire en fait.
Bah, c'est ça. Ouais, ouais. Non, mais on est. Twitter, c'est les pros des conclusions agiles.
L'analyse fine.
De toute façon, si on parle justement de la parole des joueurs, ça amène à la dernière section de l'avant-dernière section de cet épisode, qui est que donc, les Game Awards ont lieu ce soir, là, quand vous allez écouter cet épisode ou le voir, parce que surprise, joyeux Noël, cet épisode sera du coup visionnable sur YouTube. Peut-être pas dès la Noël, mais en tout cas, on va tout faire pour que là, les épisodes qu'on a tournés, donc nous, pour cette deuxième saison de RSG, ils soient disponibles sur YouTube. On les a quasiment tous filmés, juste pas postés encore, fallait que je les travaille. Et donc, ce soir, c'est les Game Awards. Et un élément qui est intéressant, c'est que les joueurs ont pu voter sur la plateforme du site de Geoff Kelly. Et on pourrait commenter ça pour en effet voir la
parole. C'est une catastrophe nucléaire, en fait. C'est Tchernobyl.
Mais les gamers ont toujours raison.
Voilà, parce que du coup, je crois que c'est Black Myth: Wukong qui est resté. Il y a 2-3 jeux gacha.
Je suis sur la liste. Il y a Genshin Impact, Zenless Zone Zero, qui est aussi un jeu Hoyoverse.
Okay.
Et un troisième dont j'ai oublié le blaze.
Et donc, je le fiche éperdument.
Exactement,
vous voyez, simple, parce que il y a des gachas où disent tout simplement, si vous votez pour nous au Game Awards, vous aurez des récompenses en jeu.
Mais oui, non.
À partir de là, bon, bah, le T, elle est zéro.
Ouais. Ouais.
Puis Black Myth: Wukong, il y a le biais que c'est un jeu chinois. Alors, évidemment, comme ils sont énormément, il y a un peu de ferveur nationale, bah, ça biaise un petit peu, ce qui est normal. Quelque part, ouais. Nous, on était un milliard de Français et qu'il y avait genre Assassin's Creed,
Dead Space, tout sauvé.
Voilà, ouais, c'est ça, bien sûr. Donc, quelque part, on peut le comprendre. C'est juste que, du coup, bah, pour définir le jeu de l'année, c'est pas hyper intéressant.
Ouais.
Surtout dans une cérémonie, finalement, extrêmement occidentale comme les Game Awards.
On sera à Los Angeles.
Non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que, du coup, ce qui m'amène au-delà de, donc, si on pourrait s'étendre un petit peu sur les polémiques des Game Awards, où, en effet, donc, le DLC d'Elden Ring, Shadow of the Earth 3 a été nominé. Ou qu'il y a toujours des invités du cinéma dans cette cérémonie qu'on avait déjà, voilà, que Jules avait déjà évoqué dans l'épisode bilan 2023, vous pouvez écouter, où on disait que bah c'est quand même assez, assez con, faut le dire, pour une cérémonie qui veut légitimer le jeu vidéo, de faire venir des gens du cinéma pour dire, vous avez vu, c'est un vrai médium, ouais. C'est aussi un peu artistique, du coup on vient de faire venir des vrais artistes, donc ouais, bon.
T'as envie d'être complexé en fait.
Voilà, c'est ça, exactement. Mais plutôt que s'étendre sur tout ça, moi ce que j'aimerais savoir, c'est du coup vos tops de l'année, soit sur une dernière bonne note, un peu, c'est quels sont les jeux qui vous ont fait vibrer en cette fin d'année ou tout le long de l'année? Et donc, bah, je vais te faire commencer toi déjà, Swill. Rapidement, sur un top 5 en 5 mots. Allez, 5 mots pour 5 jeux.
5 mots pour 5 jeux.
Ouais, okay. Environ. Hein.
Numéro 5, allez, X-Defiant. Franchement, c'est...
Moi, faut savoir, voilà, quand j'étais genre... Cinq mots. Map exceptionnelle, sensation de shoot, plaisir, vraiment. Okay. Plaisir coupable. Numéro 4, Silent Hill, The Short Message.
Ok.
Gratuit. Gratuit, quand même. Musique, direction artistique, Outlast-like.
Ok.
Et dernier mot pour ce jeu, banger. Je n'avais pas d'autre. Numéro 3, allez, j'arrive pas à penser à quoi que ce soit. Balatro. Addictif, fun, charmant, incontournable. Et anomalie. Vraiment, c'est une anomalie. Ce. Numéro 2, Lucky Squire. C'était l'un des jeux dont j'avais parlé dans le bilan 2023, où c'était l'un des jeux que j'attendais le plus en 2024. Bah, il est deuxième, du coup, bah, c'est malin, ultra accessible, charmant comme fou. Vraiment, c'est un jeu visuellement, il n'y a rien d'autre qui ressemble à ça sur le marché. C'est un jeu qui est vraiment... ça rejoint un peu accessible, mais vraiment, c'est un jeu, je me disais, genre, je peux jouer. Si j'avais un petit frère de 4 ans, j'adorerais jouer à Lucky Squire avec lui. Vraiment, okay. C'est un jeu exceptionnel. Mon numéro 1 de l'année, je pense qu'il va me falloir plus que 5 mots. Mais du coup, c'est Animal Well de Billy Basso, de chez Big Mod. Et c'est vraiment un jeu spécial, en fait. Il fait partie de ces jeux-là où, en fait, quand j'y pense, c'est pas juste un... Voilà, Lucky Squire, Is Defiant, c'est des jeux que j'aime beaucoup, mais Animal Well, la différence, c'est que vraiment, il me reste en tête. Je pense énormément à ce jeu. Il y a eu quand même une petite vague, j'ai vu sur YouTube, de gens qui sont en mode est-ce que Animal Well ne serait pas, en fait, le fer de lance d'un nouveau genre bon, pas spécialement d'accord, voire pas du tout, mais qui parle de Metroidvania. Et je suis en mode oui et non, mais je vois d'où ça vient, parce que c'est un peu... moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect un peu communautaire qu'a le jeu quand on le finit. Le côté, voilà, ce côté du mystère et tout qu'il y a dedans, c'est un jeu, voilà, qui ressemble à rien d'autre. Vraiment. Donc, Animal, vraiment incontournable. Je comprends pas pourquoi il a... C'est-à-dire que Balatro a vraiment eu, assez tardivement, quand même, je trouve, une vraie reconnaissance.
Je trouve
une reconnaissance. Animal Well, on en fait pas assez. Mais, intéressez-vous à ce jeu, en fait. Même si vous y jouez pas, faites des recherches sur ce jeu. C'est un jeu qui est d'un charme, exceptionnel. Vraiment, merci Billy Basso. C'est un mec, voilà. Le jeu a été fait par un seul mec. Ça a mis 7 ans, mais derrière, c'est un jeu exceptionnel. Vraiment, il est incroyable. Voilà, c'est mon top.
Ok, du coup, maintenant à toi, Jules.
Pour te le dire rapidement, sans ordre particulier.
Ouais, vas-y, bien sûr.
Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui vient de sortir. Grosse surprise, on retrouve vraiment l'ambiance dans la première trilogie. Il n'y a rien que ça, ça défie le jeu, quoi. C'est un jeu Indiana Jones dans tout ce qu'on veut. Ensuite, Astrobot. Extrêmement jouissif, magnifique. Un petit peu trop simple, peut-être. Mais très simple à prendre en main. Justement, c'est aussi le regard de la médaille. Hyper amusant. The Rise of the Golden Idol. Un jeu d'enquête absolument excellent. Voilà, je peux pas en dire beaucoup plus. C'est des petits dioramas, en fait, qu'il faut élucider à chaque fois. C'est vraiment difficile, mais c'est vraiment hyper, hyper bien. Genre, juste allez regarder le jeu sur YouTube et achetez-le. N'y jouez pas, mais achetez-le si vous voulez. C'est le bon. Prince of Persia The Lost Crown. Excellent Metroidvania qui est sorti cette année, très 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 dynamique, que j'ai adoré. Et puis également Animal Well dans le top 5, okay. Pour les mêmes raisons que Swill. C'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment unique pour le coup, qu'on a du mal à catégoriser, en fait.
Ouais, c'est ça.
Mais qui est passionnant.
Moi, il faut que je le fasse, du coup. En fait, c'est vraiment deux jeux sur ma liste. Soit Prince of Persia The Lost Crown, qui est sous mon sapin, ou Animal Well que j'ai envie de faire. Ils sont sur ma liste, donc je pense les rattraper plus tard. Mais donc moi, si je devais faire mon top 5, que j'ai fait de toute façon... En cinquième, j'ai mis Little Kitty Big City, qui est un petit jeu de chat, mais je trouve que c'est un petit chat dans un pas si petit jeu que ça. Voilà, en cinq mots, c'est juste jeu indé, mais très charmant, et qui m'a absolument conquis, et je trouvais ça très fun. Quatrième, Hellblade 2, que je trouve visuellement assez fou. La musique, pareil, la composition est folle. Très cinématographique, ce qui est aussi un des défauts, je pense que je pourrais lui faire, c'est qu'il est plus vite que le premier, mais voilà. Troisième, Stellar Blade, parce que personnellement c'est du Souvenir Automata et il m'en fallait pas plus. Voilà,
Deuxième Astrobot, pareil que toi, je trouve ça hyper fun. Enfin, c'est en fait, il procure un plaisir immédiat. J'ai rarement eu autant la banane qu'en lançant juste Astrobot pendant 30 heures et c'était parfait. Et pour Balatro, pour le numéro 1, pardon. Et du coup, pour le numéro 1, ouais, merde, le spoil. Et ouais, mon numéro 1, c'est Balatro parce que donc là, je vais utiliser bien plus que 5 mots ou 2 petites phrases. En fait, l'anecdote, c'est que donc je l'ai pris sur Steam pour le tester sur mon PC. Il y avait les soldes de Steam. J'y l'ai lancé parce qu'un ami de Noé m'avait dit ah, ça va être super et tout. Et j'ai dû jouer genre 2-3 heures. Enfin non, c'est que je l'ai lancé, il était 20h, je suis resté jusqu'à 4h du matin sur mon PC. Et le lendemain, je suis allé du coup à un Micromania avec ma copine et je l'ai été l'acheter sur Switch pour me dire il faut que je puisse y jouer dans le métro et partout. Et là, ça fait une semaine, deux semaines, je fais que jouer à ça dès que je peux. Genre, c'est une addiction, c'est vraiment ça, c'est vraiment addictif. Ah ouais. Et il y a un côté incontournable immédiat où vraiment, genre, j'ai rarement vu un jeu où je me suis dit mais t'as l'impression qu'il existait déjà auparavant, en fait. Ou si les personnes l'avaient créé, ça aurait dû être une évidence.
C'est un classique.
Voilà, c'est ça. C'est un classique instantané.
Il va être recopié de partout, je pense, là.
C'est
là,
déjà le perlu, le rap. C'est déjà un plat de Jack Balatro.
Voilà. Et c'est vraiment fou. Et donc, voilà, je pense que ça, c'est mon top 1. Dans une année qui, foncièrement, était pas si passionnante que ça. Je trouve qu'il y a eu de très bons titres, globalement, mais comparé à 2023, j'ai été moins sur le cul. Genre, je me suis moins tapé le cul par terre. Quand
compliqué
on
dit, de faire, en vrai.
Mais après 2024.
Voilà, ça reste une très bonne année.
Elle est très, très forte.
Mais ouais, j'ai eu le temps, je pense que aussi personnellement, en tout cas, j'ai rattrapé plus de jeux des années précédentes, notamment j'ai rattrapé Armored Core 6 ou les jeux qui foncièrement auraient été dans mon top de l'année dernière si je les avais fait plus tôt. Mais voilà, ça reste une année très très chouette.
Je vais quand même dire qu'il y a eu plus de licenciements en 2024 que 2022 et 2023 réunis.
Okay.
On était en rien sur une année.
Let's go.
Catastrophe.
Autant pour moi. Du coup, rewind, c'est pas grave. Mais du coup, ma prochaine question pour la conclure cet épisode, c'est: quelles sont vos attentes pour 2025?
Moins un licenciement déjà.
Ouais, moins un licenciement de fou. Hollow Knight Six Song.
Ouais, de fou. C'est le Song, genre, il était déjà dans mes... L'année dernière, j'avais déjà dit, ouais, ce que j'attends en 2024, c'est Silk Song. Spoiler, il n'est pas sorti. Du coup, 2025, encore, genre, s'il vous plaît, ça a l'air bien quand même.
Et évidemment, la Switch 2, hein, c'est la réponse hyper facile, mais c'est évidemment ce qu'on attend tous.
Ouais. Et j'étais assis de mon pain, comme tout le monde.
Il sera repoussé.
Il sera repoussé en genoux. Ça sera trop, on verra. J'ai espoir, mais peut-être.
Non, peut-être autre chose. Peut-être Wolverine, si enfin, ouais, il sort.
Parce que moi, je sais qu'il y a le jeu qui, je pense, aura une présentation ce soir. Mafia.
Il a une présentation.
Ouais, ce soir. J'ai vraiment beaucoup, très hâte, parce que je trouve que Mafia 3, c'était très décevant. Mais en même temps, j'adore l'histoire. Je trouve que c'est un jeu qui est hyper compliqué. C'est un jeu très amer, en fait. Mais là, j'ai refait, du coup, le remake cette année en voulant refaire le 1 et le 2. J'ai vraiment hâte d'un nouvel open world qui soit plus, entre guillemets, scénarisé et vraiment genre étroit qu'un GTA. Vraiment, hein, j'ai besoin de nouveaux d'autres GTA là, et je pense que c'est ce qui manque là à ma vie. J'ai déjà fait les Sleeping Dogs, j'ai déjà fait tous les Saints Row. J'ai besoin juste d'un jeu en monde ouvert moderne ou un peu moins moderne, mais qui forcément me met dans une ambiance particulière. Donc, je pense que c'est ma plus grosse attente de l'année prochaine. Voilà.
Ok.
Et si vous avez rien de plus, on peut conclure donc cet épisode de RNG, ce bilan 2024.
Nice.
Merci d'avoir écouté et d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Vous nous retrouverez du coup en janvier, simplement, ouais. Donc voilà, pour l'année prochaine. Et on verra sûrement des sujets où on essaiera d'être un peu plus guirés. C'était vraiment une fin d'année où c'était des épisodes beaux, très...
très aigris, mais
très aigris,
très sincères aussi. Hein. Il y a beaucoup de politique dans votre
jeu. Ouais, vidéo, c'est ça, quoi. Vraiment, il y a beaucoup de politique dans votre jeu vidéo.
Non, on parlera de...
On est très beau
jeu. Dans l'idée, on fera des épisodes un peu comme on l'a fait avec Returnal, ouais, ce genre de choses, où on va vraiment se concentrer vraiment sur des propositions uniques.
Ouais, des genres, un peu des analyses aussi. Ouais. Et puis voilà, mais en tout cas, merci d'avoir écouté. Merci à toi, Sweet, d'être toujours là. Merci à Jules d'être venu dans cette émission.
On se retrouve au prochain Noël.
On se retrouve au prochain Noël. Et donc, prenez soin de vous. Vous étiez sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Vous écoutiez RNG. Salut.
Ciao.
Sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG. First, the basics of particle blast deflection. Dude, I could be gaming.